FM 93.
Des Cogeco Nouvelles.
Vendredi 26 avril, ici Maxime Lachance, voici les nouvelles. Un travailleur a connu une fin atroce cet après-midi au port de Montréal. L'homme est mort écrasé sous un poids lourd au terminal Viau. La directrice des communications, Renée Larouche, a indiqué que les autorités du port ont été avisées d'un grave accident un peu avant 14 heures, sans autre précision. De l'aide psychologique sera apportée aux employés, a-t-elle ajouté. Aucun élément criminel ne semble en cause. L'enquête a été confiée à la CNESST. 4 Canadiens, dont 3 Québécois, figurent parmi les membres de la Flottille de la Liberté, une mission humanitaire visant à acheminer de l'aide à Gaza par la mer. Dans une lettre au premier ministre Justin Trudeau, à sa ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et au premier ministre du Québec François Legault, il les implore de faire le nécessaire pour les protéger. De passage à Bromont pour une annonce, Justin Trudeau s'est fait demander si le Canada a des contacts avec Israël pour assurer leur sécurité, mais il est resté vague.
Nous sommes en train de travailler avec la communauté internationale pour envoyer plus d'aide et on est en train de pousser très fort sur le gouvernement d'Israël de permettre beaucoup plus d'aide humanitaire à rentrer à Gaza parce que, comme on a vu avec ces rapports des Nations Unies, on est au bord de la famine.
Québec solidaire demande à François Legault d'intervenir personnellement dans le dossier du transport en commun. Le parti critique la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui a affirmé que le transport en commun n'était pas la mission de l'État. Le député de QS, Étienne Grandmont, indique qu'une somme $1,7 milliard dort dans le fonds vert du Québec.
Est-ce qu'elle veut faire partie de la solution ou elle va faire partie du problème? Est-ce qu'elle veut que son gouvernement soit le gouvernement des coupures ou le gouvernement de la relance du transport collectif? On est en 2024, il y a une crise climatique, les transports, c'est 43 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut agir, il faut trouver des solutions.
À 2 mois du 1er juillet, plus de 350 ménages demandent déjà de l'aide pour se loger aux équipes des offices d'habitation de Montréal, Laval et Longueuil. Et ce ne serait que la pointe de l'iceberg. Annie Guillemette.
Plus tôt cette semaine, la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a imploré les citoyens à demander de l'aide.
Si on fait appel aux services d'aide, les gens vont être épaulés dans leurs recherches.
Mais pour Cédric Dussault, du regroupement des comités logement et associations de locataires, les gens font d'abord leurs recherches et frappent ensuite aux portes des organismes communautaires.
Ils sont encore en train de chercher un logement par leurs propres moyens, surtout.
Dans la métropole, 350 demandes d'aide ont déjà été transmises aux offices d'habitation. Parallèlement, plus de 17 000 ménages attendent déjà un logement en prix modique, un portrait qui annonce une journée de déménagement encore extrêmement difficile. Les évictions se multiplient et on ne construit pas.
On ne voit pas vraiment comment la situation pourrait être meilleure qu'elle l'a été à 1er juillet de l'an dernier.
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, promet donc un soutien élargi. Se dit préoccupée devant la gravité de la situation.
Un toit, c'est un droit fondamental.
Annie Guillemette pour Cogeco Nouvelles.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avertit que Washington agira si la Chine ne cesse pas de fournir à la Russie des articles utilisés dans sa guerre contre l'Ukraine. Le plus haut diplomate des États-Unis a déclaré au réseau BBC qu'il avait dit à ses homologues qu'il contribuait à alimenter une menace pour la sécurité de l'Europe. Le secrétaire d'État n'a pas spécifié quelles mesures les États-Unis étaient prêts à prendre. Anthony Blinken a cependant souligné que des progrès avaient été réalisés dans certains domaines. Il a félicité Pékin pour ses efforts visant à arrêter l'approvisionnement fentanyl aux États-Unis. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Allô, allô, ici Jean Brisson. Pour une 7e année consécutive, la Finlande est le pays au monde où les gens sont le plus heureux. Le Canada se classe en 20e position. Tous les samedis matins, à la radio de CFIX FM, je vous offre les ingrédients du bonheur pour remonter la pente. Notez que les heures de rendez-vous sont de 9h à 11h et que le port du masque n'est pas obligatoire.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Ah, le printemps! Les journées qui allongent, le retour de la chaleur et des outardes. Ben oui. Mais qui dit printemps, dit aussi la vente étiquette rouge chez Toyota. C'est l'occasion parfaite pour profiter d'offres intéressantes sur une sélection de Camry, Tundra, BZ4X et d'autres modèles. Mais ne rêvez pas trop longtemps, parce que Phil la marmotte a prédit que la vente étiquette rouge n'allait pas durer éternellement. C'est bien connu que Phil, il se trompe jamais, hein? Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
Peut-être pour le dîner, peut-être pour le souper, pensez à Salvatore, de la pizza de grande qualité à un prix abordable. Il y a plein de promotions du moment. Le midi, petite pizza, deux ingrédients, seulement $6.99. Et il y a la petite poutine classique également à seulement $4.99. C'est vraiment pas cher. Salvatore, c'est aussi plus que de la pizza. C'est des poutines, des ailes de poulet, plusieurs accompagnements et plein de promotions. Pour tous les détails, salvatore.com, par exemple, si vous voulez avoir des rabais sur les pizzas, c'est là que ça se passe. Commande en ligne disponible et la livraison aussi. Allez les voir, Salvatore.
Réveil Rimouski vous parvient en direct du studio McDonald's du lundi au vendredi de 6h à 10h. CFIX FM 93.
Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère.
Le Québec maintenant. 15h06, vendredi le 26 avril. Merci, Dieu merci, c'est vendredi. J'accueille là-dessus mes camarades, Jérémy Fleuzer, Catherine Beauchamp, Maude Goyer, là, pour sa chronique du vendredi. Bonjour.
Allez,
tout le monde.
Salut.
Je vais faire une petite annonce avant de vous passer la parole. C'est mon dernier vendredi à l'antenne. Vous savez, c'est ma dernière année au Québec maintenant. Donc, les vendredis, je vais faire du travail pour mon projet, mon défi de l'année prochaine, qui est l'animation de l'équipe, de l'émission du matin.
Ça, tu parles du projet quand tu vas te lever à 2 ou 3 heures du matin.
3 heures. Pousse-moi pas à me lever plus tôt que j'ai besoin de me lever, Catherine Beauchamp. Ce sera 3 heures. Si Paul Arcand se lève à 3, il n'y a pas besoin de me lever à 2.
On t'aime beaucoup, mais nous autres, on va rester en l'après-midi.
Oui,
parfait, parfait. Faut bien,
c'est une sale job, mais il faut que quelqu'un la fasse, comme on dit. Donc, je vais être de retour après ça, le 21 juin, pour la toute dernière émission du Québec maintenant. Entre-temps, Elisabeth Crête et Philippe Quentin vont me remplacer. Donc, voilà. Merci d'être à l'écoute. C'est un plaisir de vous raccompagner. C'est un vendredi magnifique sur le sud du Québec. Monsieur Filosa, vous allez nous parler des rénovations du Stade olympique.
Oui, on a vu ça dans le Journal de Montréal ce matin et je vais vous expliquer comment on en est arrivé à un chiffre qui va dépasser le milliard de dollars pour les rénovations au Stade olympique. Les séries se poursuivent dans la Ligue nationale de hockey et je vais faire aussi un tour d'horizon à savoir quoi suivre ce week-end entre le hockey féminin, le CF Montréal qui est en action aussi demain et les Blue Jays qui reçoivent la visite des Dodgers et d'un certain Shohei Ohtani. Qui était supposé venir l'hiver passé, mais qui finalement n'est pas venu. Oui.
Tu sais, au lieu d'avoir mon chantier Rona,
il
préfère mon stade olympique. Ça serait une excellente télé-réalité, non?
Écoute, ça prendrait
une
probablement...
Une quotidienne à tous les jours.
Écoute, une télé-réalité qui dure une vie. C'est ça, ça dure 10 ans.
Bon, tu vas nous parler de l'univers fascinant des femmes à barbe, Kat.
Oui, avec le film Rosalie de la réalisatrice Stéphanie Digusto. Effectivement, une femme à barbe dans les années, à la fin 1870, qui débarque dans un village. Ça va déranger, pas besoin de le dire. On a de la misère avec la différence. Puis bien avant cette époque-ci. C'est un film qui est magnifique avec Nadia Tereskevic qui a joué dans Babysitter de Monia Chokri. Alors, écoutez l'histoire, ça vaut la peine.
Parfait. Absentéisme dans votre chronique où vous êtes très présente, Mme Goyer.
Oui, en fait, oui, je suis très présente. J'ai sondé les parents pour savoir comment ça se fait que les enfants manquaient d'école. On l'a vu dans la presse.
Parce que les enfants sont plus comme dans notre temps, madame.
Ben, j'ai eu des réponses surprenantes. Puis j'ai aussi parlé avec un professeur en Finlande pour voir comment ça se passe là-bas. On le sait. Le programme scolaire.
Pourquoi la Finlande?
Ben, c'est l'un des meilleurs programmes scolaires au monde. C'est l'un des pays les plus heureux au monde. Est-ce qu'ils ont la même problématique? Comment ça se passe pour eux?
Dans notre temps, il fallait faker en tabarouette manquer de l'école.
Aussi,
il fallait vraiment que tu commences à avoir mal au cœur la veille.
Si tu n'avais pas un membre arraché, ton père te pognait puis il t'amenait à l'école par
quand
le chignon.
Je me suis déjà mis une lumière de lecture dans le front pour avoir le front chaud. Pour aller voir ma mère. Puis quand j'allais la voir, elle a dit t'as mis la lumière dans le front. T'as un rond rouge dans le front.
Ça, c'est fort.
Mais boire de l'eau chaude avant de faire prendre ça.
Ben oui.
Il y a plein de trucs, là.
Je suis très curieux. Envoyez-moi. OK, non, on va solliciter les gens. 98985. Envoyez-moi vos meilleurs trucs pour ne pas aller à l'école quand vous étiez jeune, évidemment. Parfait. OK, et Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, va se joindre à l'équipe dès 16h. Merci tout le monde. On se retrouve dans les prochaines minutes.
Le Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Deux petites nouvelles pour commencer. D'abord, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a annoncé la conclusion d'une entente avec le gouvernement du Québec qui va permettre aux médecins de famille de prendre une retraite progressive. Il semble que c'était compliqué quand on est médecin de famille de prendre une retraite progressive, de se dire, ben, je vais peut-être travailler 20-25 heures plutôt que travailler à temps plein. Le système ne vous encourageait pas à faire ça. Ce que ça faisait, c'est que ça poussait des médecins à prendre leur retraite plus tôt qu'escompté. Ils auraient pu donner quelques années encore au système, mais bon, l'incitatif était vers la retraite immédiate. Là, on a une entente et il semble qu'une centaine de médecins de famille pourraient ainsi repousser leur retraite. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas comme si on avait un surplus de médecins de famille. Nouvelle qui nous parvient de Québec, qui est sortie aujourd'hui. Patrick Provost, c'est un professeur controversé de l'Université Laval, complotiste, anti-vax, très, très populaire dans les cercles anti-vaccinaux, dans les cercles de théorie du complot. Ben, il a été congédié. Il avait déjà eu plusieurs problèmes avec son employeur, défendu par son syndicat à l'époque, et il l'est encore. Donc, on n'a pas les détails du pourquoi, du comment, mais Patrick Provost a été congédié. C'est une nouvelle surprenante parce que les profs d'université, c'est assez rare que c'est congédié. Commentaire avant de passer à d'autres nouvelles sur les poursuites policières. C'était dans la presse ce matin. Le SPVM a sanctionné des policiers qui se sont lancés dans une poursuite à haute vitesse il y a un peu moins d'un an. Ça se passait à Montréal. Et quand la police se lance dans une poursuite à haute vitesse, au SPVM, il y a un comité des poursuites. Et on va décortiquer le pourquoi du comment. Pourquoi les policiers ont pris cette décision-là. Et on va poser un jugement. Est-ce que c'était justifié? Si on juge que c'était pas justifié de rouler à haute vitesse en milieu urbain pour appréhender quelqu'un, ben les policiers vont être sanctionnés. Et là, dans le cas qui nous occupe, qui a été rapporté par Vincent Larouche et Daniel Renault ce matin, c'est assez consternant. Ça se passait le 31 mai 2023. Monsieur Andrei Petuhov, 52 ans, a été victime d'un épisode de rage au volant sur le site de Orange Julep. C'est en bordure de l'autoroute d'Écarie. Imaginez, il y a une altercation en voiture, là, si j'ai bien compris. Il sort pour aller chercher quelque chose à l'Orange Julep et il y a un des suspects qui se présente derrière lui et qui le frappe par derrière à la tête. Monsieur Petuhov est tombé, il est décédé. Mais quand l'événement a été rapporté au 911, il y a des policiers qui ont localisé le véhicule en fuite des suspects et qui ont décidé, vu la gravité de l'événement, de se lancer à la poursuite des suspects, de la voiture des suspects. La voiture leur a échappé. Mais on comprend ici que c'est une poursuite qui a été déclenchée par une agression. Et dans le passé, il y a eu des personnes, des citoyens, pas juste ici, mais c'est arrivé ailleurs aussi, qui sont morts, qui ont été frappés par des voitures de police ou par des voitures en fuite poursuivies par la police. Et quand on décortiquait l'événement, tu te dis, écoutez, est-ce que ça vaut la peine de se lancer en milieu urbain à la poursuite, à la chasse d'une voiture suspecte quand ça concerne un vol de voiture, quand ça concerne un vol par effraction dans une maison? Ben, quand tu décortiques ça, tu te dis, ben non, tu vas pas mettre en danger la vie humaine pour des crimes qui touchent la propriété, par exemple. Quand il s'agit de quelqu'un qui a été agressé, qui nécessite un appel au 911, je pense qu'on est dans une autre zone complètement. Et là, ce qu'on apprend, c'est que les quatre policiers qui ont été impliqués dans cette poursuite-là, trois policiers dans des voitures et un sergent qui était au bout du fil pour donner des ordres aux policiers, mais ils ont été sanctionnés. Ça a été jugé non nécessaire et ça sème la consternation dans les rangs de la police à Montréal présentement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le principe que s'il y a de la vie humaine qui est mise en danger parce qu'on veut arrêter des suspects qui ont commis des crimes contre la propriété, par exemple. Je suis d'accord, on interrompt la poursuite puis on essaiera de les arrêter, ces suspects-là, plus tard. Quand il s'agit de crottés qui ont attaqué sournoisement quelqu'un qui finit par mourir, m'excuse, si ça, c'est pas justifié et justifiable, donc, donner des trottinettes aux policiers rendus là. Donc, si Fadi Daguerre cherche une tablette ou mettre des policiers, peut-être qu'il devrait regarder du côté de ce fameux comité des poursuites au SPVM. On va parler du procès Trump pendant une seconde, parce que c'est un cours de journalisme de tabloïd auquel on a droit présentement à New York. C'était très populaire jusque, je dirais, il y a peut-être une dizaine d'années. Les journaux de type tabloïde, là, format tabloïde, National Enquirer et compagnie, qui était spécialisé dans les histoires scabreuses, dans les histoires de couchettes. Il y a beaucoup d'histoires de couchettes, de tromperies qui ont été éventées, d'homosexualité refoulée. Bref, c'est pas mal de la presse de caniveau. National Enquirer était le roi de ces journaux-là. Il payait aussi pour des histoires croustillantes. Et ce qu'on apprend dans le procès Trump, le procès criminel de M. Trump dans l'État de New York, c'est que le journal avait des alliés, était un allié